la bonne parole et lire ensemble dans le livre du Deutéronome pour commencer, au chapitre 33. Et à partir du verset 13, et nous lirons jusqu'au verset 16, ce texte fait partie d'une succession de paroles, de bénédictions que Moïse, homme de Dieu, a prononcées sur les enfants d'Israël. Et ici, il sera question de Joseph. Sur Joseph, il dit, « Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. » Genèse, chapitre 49, là aussi, c'est une succession de paroles que Jacob a prononcées sur ses fils, et il y est question, bien sûr, de Joseph. Genèse 49, verset 22, « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, je vais vous parler de ce personnage qui fait partie des monuments de l'Ancien Testament, personnage d'une importance très particulière. L'histoire de Joseph dans la Genèse occupe plusieurs chapitres, ce qui nous montre l'importance de l'exemple que cet homme nous laisse. La vie de Joseph, je vous invite et je vous encourage à relire et à vous plonger dans la vie de Joseph. La vie de Joseph a bien sûr une portée historique, mais elle a aussi une portée messianique. Elle annonce la venue du Messie, mais elle a également une portée spirituelle. Pour nous, chrétiens de l'église d'Aubagne en 2025, la vie de Joseph a une portée spirituelle et c'est cette portée qui va m'intéresser ce matin parce que il y a des trésors qui constituent le témoignage de Joseph que j'aimerais m'approprier afin d'en être enrichi. Joseph, c'est un nom propre qui provient d'un verbe qui veut signifier quelque chose et son contraire. C'est un verbe qui signifie ôter et en même temps ajouter. Dans le même nom, il y a déjà cet enseignement qui nous permet de comprendre que avant d'ajouter dans nos vies les bénédictions qu'il a en réserve, Dieu va nécessairement ôter certains éléments gênants, encombrants, qui sont en nous, qui se sont accumulés à travers notre histoire, des déceptions, des déconvenues, des choses douloureuses, des épisodes qu'on n'aurait jamais voulu vivre. Et il y a une accumulation, n'est-ce pas? Et cette accumulation va gêner la communication de ces grâces. Alors d'abord Dieu va ôter et ensuite il va ajouter, et dans le but de donner à notre vie la dimension que depuis toujours il a préétabli, que le Seigneur soit béni. Quand vous lisez les paroles de Jacob sur ses fils, vous en avez pour tous les goûts, vous trouvez tous les profils imaginables. Ce n'est pas toujours très glorieux, parce qu'il y a dans l'énumération que Jacob nous fait des expressions caractérielles, pas toujours agréable, l'impétuosité, la vengeance, la violence, la malveillance, la méchanceté, toutes sortes de choses. On est surpris parfois de trouver ce genre de réalité dans la Bible, mais vous le savez, la Bible est un miroir. Et quand je lis la Bible, je suis devant un miroir. C'est comme si Dieu me disait « voilà ce que tu es par nature hein ». Voilà ce que tu es, la tortuosité, la méchanceté, l'orgueil, la violence, etc. Mais en même temps, dans ce miroir, il y a le reflet de Dieu et je découvre ce Dieu merveilleux qui peut me transformer, qui peut me changer, que son nom soit béni. Ce qui est quand même remarquable, toujours dans mon introduction, c'est que malgré des profils psychologiques et caractériels pas favorables, Joseph va se distinguer. Je comprends que mon épanouissement spirituel, mais je dirais aussi affectif et psychologique, ne dépend pas de mon entourage. On a parfois le réflexe de rendre responsable l'autre. C'est à cause de l'autre, n'est-ce pas ? Mais au milieu d'une liste pas toujours très glorieuse, il y a Joseph, dont Jacob va prononcer des paroles extraordinaires et sur lesquelles je vais me porter plus en détail maintenant. Joseph, Jacob le compare au rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches de ce rejeton qui, dans sa première phase, est assez méprisable, parce qu'un rejeton, ce n'est pas très spectaculaire, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire là, c'est que ce rejeton va avoir une telle vigueur, une telle vitalité, qu'il va pousser des branches robustes, des branches pleines de vie, des branches qui vont atteindre une telle amplitude qu'elles vont dépasser, surmonter le mur. Parce qu'il y a un mur. Parce qu'il y a un mur. On énumérera quelques murs que Joseph a rencontrés dans sa pérégrination, n'est-ce pas ? Mais ce que j'aimerais déjà dire, c'est que ta vie avec Dieu rencontrera des murs. Il y aura des murs, forcément. Les murs sont le symbole de toutes les formes d'empêchement et d'obstacles qui brusquement s'élèveront sur ta route. Des murs. On peut en citer des exemples à foison. Ces murs sont autant de défis à ta foi, d'obstacles à ton bonheur, parce que un mur, ça vous barre la perspective. C'est vrai ou pas ? Est-ce que vous avez une perspective ? Le mur a comme objectif de vous barrer la vue, la vision, la perspective. Moi, il y a un truc que j'aime pas du tout, je ne sais pas si certains s'y reconnaîtront, quand je suis sur l'autoroute et qu'un fourgon me double et se met devant moi, je n'ai plus de perspective. Et ma conduite devient stressée et stressante. Parce que je n'ai pas de distance. Je ne sais pas s'il y a un virage, je ne sais pas ce qu'il y a. Quand on n'a pas de perspective, et quelqu'un peut-être dans ce qu'il traverse a ce genre de stress et d'anxiété, tu as l'impression qu'un mur te cache la perspective. La perspective. Eh bien, Jacob est là pour t'encourager et pour te révéler les clés qui vont te permettre de surmonter les murs et de retrouver à nouveau une perspective, de l'espérance, une vision large, motivante, enthousiasmante de ton existence, que le Seigneur soit béni. Ces murs, je le disais, sont le symbole des obstacles, des empêchements. Jacob va parler de ces personnes malveillantes qu'étaient les frères de Joseph en un terme très parlant. Ils l'ont provoqué. Ils l'ont provoqué. Le verbe provoquer contient la notion de, voyez, d'exciter, d'agresser, de faire une pression dans le but, si c'était possible, de faire tomber, provoquer, la provocation. Bien, tu vas rencontrer des défis qui vont te provoquer, qui vont provoquer ta foi. Tu vas rencontrer des problématiques qui vont éprouver ce que tu chantes. Parce qu'un pasteur un jour a dit, nos plus grands mensonges, nous les chantons au culte. Parce que nous chantons la confiance en Dieu, et quand on est devant le mur, alors nous déchantons. C'est là que tu vas démontrer que tu es vraiment enfant de Dieu, que tu lui appartiens, qu'il est ton espérance, qu'en lui tu as enraciné toutes tes attentes. C'est au pied du mur que tu vas démontrer que tu n'es pas un chrétien de formule, mais que tu es vraiment un homme de foi, une femme de foi, que le Seigneur soit béni. Ils l'ont provoqué, mais ils n'ont pas eu la victoire. C'est Jacob, c'est Joseph qui a vaincu, alléluia. Les branches de ce rejeton apparemment banal ont démontré tant de santé et de vitalité qu'elles ont surmonté la muraille, que le Seigneur soit béni. Alléluia. La muraille, les murs. Oh, Joseph, s'est heurté à la jalousie de ses frères, à la trahison, à la malveillance, à la cruauté. Vendre comme esclave son propre frère. C'était le 11e fils de Jacob. C'était donc pas le vraiment dernier, mais l'avant-dernier. C'était celui qu'on chouchoute, quoi. Eh bien, avec une cruauté inimaginable, ils le vendent à des Madianites et ils le vendent pour 20 pièces d'argent. Quel mépris! Il l'évalue à 20 pièces d'argent. Il va rencontrer le mur de la servitude, de l'injustice, du déracinement de la maison paternelle. Il va rencontrer le mur de la tentation chez Potiphar lorsque Madame le tente. Le mur de la tentation, tu rencontreras, mon frère, ma sœur, aussi ce mur-là. Il a rencontré le mur de la diffamation, de la calomnie, de l'injustice, de l'emprisonnement. Il a rencontré le mur de l'ingratitude, de l'oubli. Il avait été un instrument de bénédiction, mais le sommelier qui lui avait promis qu'il se souviendrait de lui. Il a oublié le mur de l'oubli. Est-ce que quelqu'un a le sentiment que son drame passe inaperçu, personne n'en a cure, et tu as l'impression, mais ce sont comme des murs. Et vous savez, il y a les murs circonstanciels, mais il y a les murs intérieurs aussi. Il y a les murs intérieurs. Et je dirais même que, à force de rencontrer des murs circonstanciels, ça crée en nous des murs intérieurs. Des murs là, à l'intérieur. On se fait des schémas, on se fabrique des faussetés. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël a été libéré de la férule égyptienne après 400 ans de servitude, c'est un peuple libéré de l'Égypte qui passe la mer Rouge, mais il n'est pas encore libéré là à l'intérieur. Hein. Et pendant 40 ans, dans le désert, Dieu va travailler à casser et à faire tomber les murs intérieurs. Et l'incrédulité et toutes sortes de réflexes conditionnés que 400 ans de servitude avaient fabriqués, que le Saint-Esprit nous visite ce matin. Et qu'il fasse tomber nos murs cachés, nos murs personnels, la défiance, un reliquat d'aigreur, d'autres choses encore. Eh bien, Joseph a triomphé de tous ces murs, que le Seigneur soit béni. Et la clé, les clés, en fait, que Joseph nous laisse sont les suivantes. J'ai écrit sur un de mes papiers, quand on est face à un mur, il vaut mieux être du bon côté du mur. Parce que Jacob fait ressortir une chose, c'est que oui, il est face à un mur, mais il est du bon côté du mur, là où il y a une source. De l'autre côté du mur, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Peut-être des bêtes sauvages, un relief un petit peu, vous voyez, inhospitalier. Mais Joseph est du bon côté du mur. Il est le rejeton d'un arbre fertile près d'un ruisseau. Et peu importe l'épreuve que tu seras appelé à surmonter, l'important c'est que tu sois en contact permanent avec le ruisseau de Dieu. Amen. Que tu sois du bon côté du mur. Je dirais que cette description nous parle de la position privilégiée de l'enfant de Dieu. Est-ce que vous vous sentez privilégié? Oui ou non? Il y en a deux, trois maintenant, trois. Hein? Et les autres, quatre avec Jeff. Oh, hein? Est-ce que vous vous sentez privilégié d'être les enfants du Père Céleste? Les rachetés du grand sauveur qu'est Jésus-Christ, d'avoir vos noms écrits sur son livre de vie. Alléluia! La position privilégiée d'être en communion avec lui, et malgré les circonstances les plus scabreuses, de pouvoir plonger mes racines dans le ruisseau de Dieu. C'est mon secret. Alléluia! Je ne vais pas attendre que ça aille mieux politiquement, économiquement ou autrement. Mais je peux jouir dès maintenant du privilège de puiser la vie de Christ et d'en bénéficier et d'en produire les conséquences, parce qu'on va voir les conséquences. Selon là où tu te positionnes, il y aura où il n'y aura pas les conséquences glorieuses que Jacob mentionne dans cette parole de Genèse 49. Il est près d'un ruisseau. Oh, ceci nous parle de la communion avec le Seigneur. Ceci nous parle de ces moments irremplaçables de visitation du Saint-Esprit. Tu sais, lorsque tu es tout seul, toute seule, dans ton coin intime, et que tu déverses ton cœur, tu lui dis tout, tu racontes tes craintes, tes inquiétudes, tu lui dis ta fatigue extrême, parce qu'on a tout à gagner à tout dire au Seigneur. Amen. Il ne faut pas tout dire à n'importe qui. Hein. Mais au Seigneur, tu peux tout lui dire. Et là, pendant que tu vis de ton cœur, lui, il le remplit par l'eau vivifiante de son ruisseau. Et la Bible me dit que les ruisseaux de Dieu sont toujours pleins d'eau. Amen. Ils ne tarissent jamais. Et ce matin, je prie pour que les ruisseaux vivifiants du Saint-Esprit coulent au milieu de nous, alléluia, et vous fassent reverdir, refleurir, retonifier, alléluia, que le Seigneur soit béni, amen. La position privilégiée de l'enfant de Dieu, c'est de rester en communion avec son Père Céleste, avec son Sauveur bien-aimé et avec le divin Consolateur, le Saint-Esprit, qui, sur son courant, me communique et m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Toutes les ressources du ciel sont à ma disposition. Amen. Alors je peux dire avec Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Il me fortifie parce que mes racines sont plongées dans ses ruisseaux. Alors sa vie se communique à moi, remonte des racines jusqu'à la pointe de mes branches, et alors je puis tout. Je peux espérer, je peux louer, je peux témoigner, je peux persévérer, je peux confesser dans la foi que mon ennemi est vaincu et que mon Seigneur est vainqueur. Je peux marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire, puisqu'il me l'a dit, il m'en a donné le pouvoir. Que le Seigneur soit béni. Il est dans une position privilégiée, et j'aimerais te dire une chose, mon frère, ma sœur, écoute bien, s'il te plaît. Une des malices de ton ennemi, ce sera de tout faire pour t'enlever de cette position privilégiée. Oh, si l'adversaire réussissait à couper ta communion avec Jésus qui a dit « Je suis la vie », alors il réussirait à t'affaiblir, tu fanerais, tu t'étiolerais et tu mettrais en péril ta subsistance. Mais que le Seigneur t'encourage ce matin. Et si tu avais besoin de renouer et de réintensifier ta communion avec le Seigneur, que cela se fasse ce matin par une résolution personnelle du « Seigneur, je veux retrouver le chemin de la prière ». Je veux reprendre ma Bible. Ah, au fait, où elle est ma Bible depuis le temps? Je veux reprendre ma Bible. Je veux la lire, m'y plonger. Je veux boire, je veux manger les richesses qu'elle contient afin d'être ce rejeton qui va pousser des branches hautes parce que ses racines plongent dans le ruisseau de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, les branches qui surmontent la muraille sont ici l'image du chrétien triomphant, du chrétien qui, par sa foi, va prendre le dessus sur tous ces obstacles. Que le Seigneur soit béni. Alors, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Je vais terminer ce message par quelques conséquences extraordinaires que Jacob énumère. Premièrement, la conséquence, c'est que son arc ne s'est pas cassé. Son arc est demeuré ferme, nous dit Jacob, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. L'arc qui résiste aux provocations intentées, c'est l'image de ta foi qui triomphe, qui demeure et qui subsiste malgré tout. J'aime cette parole de Paul qui sait que son départ approche et qui dit « J'ai gardé la foi ». Amen. Alors je ne sais pas, peut-être le Seigneur reviendra avant, mais s'il permet que je connaisse la mort physique, moi, j'aimerais bien, sur ma pierre tombale, qu'on inscrive « J'ai gardé la foi ». Amen. C'est la meilleure réponse que l'on peut faire à celui qui aura tout fait pour la saper, pour la casser. Que tu puisses lui répondre, j'ai gardé la foi. Pas un reliquat de foi abîmé, mais une foi intacte, une foi pleine d'autorité, une foi pleine de joie, d'espérance. J'essaie d'imaginer l'apôtre Paul quand il écrit ça, j'essaie de l'imaginer, j'arrive pas à imaginer un vieillard rabougri, souffreteux, mais j'aime l'imaginer, le regard pétillant, la voix assurée et émanant et rayonnant cette foi pleine de santé. J'ai gardé la foi. Eh bien, la volonté de Dieu est une des conséquences qui découlera de ta position privilégiée, les racines plongées dans le ruisseau divin, c'est que ton arc ne se casse pas. Amen. Et nous prions parce que dans ce local, si tous ceux qui ont rencontré Jésus un jour étaient là, et mes amis, ce n'est pas 3 parkings de plus qu'il faudrait. Et nous prions pour que tous ceux dont l'arc s'est brisé devant l'intensité de l'épreuve, en raison de défaillances diverses, que sais-je, nous prions pour que la foi brisée soit restaurée. Et que si parmi nous il y avait quelqu'un qui était à un pas de craquer, le Saint-Esprit te visite ce matin et que tu te remettes à espérer contre toute espérance et à confesser de ta bouche que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit, que Dieu soit béni. C'est la première conséquence glorieuse, son arc est resté ferme, que le Seigneur soit béni. La deuxième conséquence, c'est que Joseph, en puisant la vie divine comme cela, a été rendu capable de quelque chose que je n'hésite pas à répertorier parmi les exploits les plus spectaculaires. Il a pardonné à ses frères. Il a pardonné à ses frères. Et je maintiens que ça fait partie des exploits qui glorifient le Seigneur. Pardonne. Mais alors, il a pardonné. Vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que le pardon est une délivrance et qu'il est aussi une formidable victoire. Amen. Ils l'ont provoqué. Ils ont manifesté à son encontre tant et tant de choses inqualifiable. Mais lui, il avait ses racines dans les ruisseaux de Dieu. Et son cœur s'est dilaté d'amour et de pardon. Quand il a pris dans ses bras ses frères criminels, avec des sanglots, tellement son émotion était exacerbée, les sanglots de Joseph, on les entendait dans tout le palais de Pharaon, dites. Il a pardonné généreusement. Pas par perfusion, au goutte à goutte, mais généreusement, un pardon généreux sur lequel on ne revient pas. Quelqu'un a dit, le pardon ne changera pas ton passé, mais il ouvrira ton futur. Et il y a quelque chose de vrai dans cette phrase. Même si, j'ajoute moi ma petite interprétation, quand je pardonne, ça change quand même mon passé, en tout cas, ça change ma lecture du passé. Mon passé, je ne l'oublie pas, mais quand j'y repense, je suis délivré de l'amertume qu'il me suscitait. Mon cœur baigne dans le pardon de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide à exercer ce pardon généreux. Amen. Gloire à Dieu. Un pardon spontané, gratuit, sans condition, sans attendre en retour quelque chose. Que ton cœur soit libéré de toutes les entraves qui pourraient subsister pardonne comme Joseph a pardonné. Que Dieu soit béni. Et puis Joseph, l'adolescent fanfaron, est devenu un père nourricier. Jacob dit même que Joseph est devenu le berger et le rocher. Vous vous rendez compte ce que Dieu peut faire ? Comment Dieu peut nous changer ? Alors qu'il avait, je ne sais pas moi, peut-être 14-15 ans, il avait fait quelques songes d'origine vraiment divine, mais lui, il était immature, c'était un ado immature. Alors il est venu taquiner ses grands frangins, « Oh, viendra un jour, vous allez vous prosterner devant moi, avec un M majuscule. Hein, » Eh bien, cet adolescent immature, Dieu va le travailler, le transformer et en faire un père nourricier. Quelqu'un a dit, en littérature, nous corrigeons les épreuves. Dans la vie, les épreuves nous corrigent. Toutes les épreuves que tu traverseras seront des moyens que Dieu va utiliser pour te corriger, changer, te transformer, t'améliorer. Et faire d'un être au départ immature un père nourricier, un berger, un rocher, en tout cas un adulte, un chrétien mature. Et un chrétien mature a des priorités différentes d'un jeune enfant dans le Seigneur. L'enfant en Christ, c'est moi d'abord. Le chrétien mature, c'est mon frère, ma sœur, c'est mon Église, c'est l'autre d'abord. En sachant bien que si je me donne à l'autre, je ne suis pas oublié du Seigneur, n'est-ce pas ? Il devient le père nourricier, il devient le berger, le Seigneur le change. Mais il a fallu toutes ces années d'épreuves, tous ces murs que par sa foi il a surmontés pour faire de lui le personnage, le géant qu'il est dans l'Ancien Testament, hein, que Dieu soit béni. Troisième conséquence glorieuse, c'est la bénédiction. Jacob va parler avec beaucoup de détails et d'abondance de la notion de la bénédiction. Qui est-ce qui veut être béni par le Seigneur ? Il y en a deux, trois, non, plus. Hein. Moi, je veux être béni. Alléluia. Jacob dit ceci. L'œuvre du Tout-Puissant te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Et ça nous parle du ciel et de l'éternité. C'est comme cela que Dieu veut bénir ma vie et ta vie, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Et puis, on a lu tout à l'heure Moïse, mais Moïse va dire et va surenchérir, il va dire, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleurs eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme, le meilleur. Le meilleur. Il y a le bon, mais il y a le meilleur. Moi, je préfère le meilleur. Bon, c'est pas mal, le bon. Mais chercher le bon, c'est viser plus bas que ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut pour nous le meilleur. Le meilleur. On en a parlé un jour, je ne sais plus quand, c'est le mot halal qui a donné les produits halal. Un mot hébreu, halal, qui signifie la qualité la meilleure, celle qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans le pays de Canaan. Quand Jacob dit à ses fils, mettez dans vos sacs les meilleures productions du pays. C'est le Hallel. Alors, je m'empresse de dire à quelqu'un qui peut-être serait un peu ballotté par des tentations et des perspectives un peu dangereuses, le meilleur pour ta vie se trouve dans le Seigneur. La joie qu'il donne, la paix qu'il donne, l'espérance qu'il communique, le soutien, le secours et la vie intense que quotidiennement il nous appelle à vivre avec lui, c'est le meilleur. Tu ne trouveras pas de comparable ailleurs. Ne te fatigue pas. Ne sois pas comme ce fils des prophètes qui se disait « Oh, Élisée nous donne à remplir de l'eau. Il veut nous faire un potage d'eau chaude. » Alors, moi, je vais chercher meilleur. Et il s'en va dehors et il trouve des coloquintes sauvages. Très colorées. Ça a excité la vue, très esthétique. Il en remplit son vêtement. Et il se dit, heureusement que tu es là. Hein. Heureusement que tu as un esprit d'initiative. Et il coupe en morceaux, il jette ça. Le résultat, vous le connaissez. Lorsqu'il commence à goûter ce potage infect, il grimace. Il crie, la mort est dans le pot. Alors, le monde va te proposer des coloquintes attrayantes. La société va te faire des propositions alléchantes, attrayantes. C'est très coloré, mais tu mets ça dans la marmite, c'est la mort qui est dans le pot. C'est imbuvable, c'est toxique, tu risques d'y laisser ta vie. Il a fallu, encore une fois, la grâce de Dieu, hein, la grâce de Dieu, l'intervention du prophète Élisée pour que la mort soit ôtée, que le Seigneur soit béni. Le meilleur se trouve dans le programme que ton Dieu d'amour a préétabli pour ta vie. Cherche sa volonté, c'est le meilleur. Cherche la bénédiction. Sa bénédiction va combler ton être tout entier. Vous avez remarqué, il est dépeint la bénédiction de l'Éternel sous plusieurs facettes. Il y a la bénédiction, Jacob va dire, les bénédictions des cieux en haut, c'est les bénédictions qui viennent d'en haut, les bénédictions spirituelles, cette effusion, vous savez, quand brusquement je suis rempli de sa présence, quand sa paix m'inonde et chasse mes obsessions et mes hantises, quand sa joie me remplit brusquement, je tressaille de l'intérieur. Ça vient d'en haut, mais il y a aussi les bénédictions qui sont d'en bas. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Et pour les choses d'en bas, matérielles, terre à terre, Dieu a des bénédictions. Il va pourvoir à tes besoins matériels, il va t'aider, il va susciter, mais on pourrait donner des témoignages innombrables. Je me souviens de ce jour où dans la Renault 6 blanche de l'église de la Rose, avec ma femme, on était jeunes mariés, on rentrait à la maison vers midi et on n'avait rien à manger et on n'avait rien sur le compte et on se disait comment on va faire. On va au courrier, il y avait un chèque de 1000 francs à l'époque. Mais pour nous, 1000 francs, c'était formidable. Au bon moment, dans une circonstance particulière, mais combien de fois nous avons expérimenté la fidélité ponctuelle du Père Céleste. Ton Père Céleste n'arrivera jamais en retard. Il interviendra au bon moment, aussi bien d'origine céleste que dans le niveau matériel de ton quotidien, la bénédiction de Dieu. C'est le meilleur. Et puis Jacob va dire des bénédictions des mamelles et du sein maternel, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Moi, je dirais que dans la bénédiction de Dieu, il y a l'aspect maternel, l'aspect paternel. Je vais peut-être surprendre quelqu'un, mais il y a du maternel en Dieu. Il est pourtant notre Père céleste, mais il éprouve pour nous aussi des sentiments maternels. Et le maternel a ses particularités, hein. C'est beau, l'amour maternel, l'instinct maternel, la prévenance maternelle, le regard maternel. eh bien, il y a dans les bénédictions de Dieu la bénédiction paternelle qui sécurise, qui garantit, la bénédiction maternelle qui console le cœur, qui parle au cœur, qui rassure les émotions. Dieu s'occupe de mon être dans tous ses aspects. L'esprit, l'âme, le corps sont au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Que Dieu te bénisse dans cette dimension ce matin. Alléluia. Et puis je termine avec ce dernier point. Il y a eu la victoire du pardon. Il y a eu le développement de la stature de Joseph qui est devenu le père nourricier. Il y a eu cette profusion de bénédictions sur sa vie. J'aimerais terminer ce message en disant que tout ceci a été rendu possible dans la vie de Joseph parce qu'une expression qui revient plusieurs fois nous est laissée comme une clé, l'Éternel fut avec Joseph. Amen. Et si Dieu est avec nous, vous connaissez la suite. L'Éternel fut avec Joseph. J'aimerais utiliser ce beau témoignage pour vous parler en conclusion de notre identité. Nous avons reçu, dès le jour de notre conversion, une identité. L'Éternel fut avec Joseph. Et j'imagine que dans cette présence d'accompagnement divin, Dieu a rappelé à Joseph qui est Joseph pour Dieu, son identité. Tu es mon élu, tu es mon protégé, tu es ce jeune adolescent à qui je t'ai révélé par des songes les plans et les desseins que j'ai établis pour toi. Je suis ton Dieu, tu es mon protégé, je suis ton pourvoyeur et tu es l'héritier de mes richesses. Et Joseph a été marqué par son identité. Pour Dieu, tu as une identité. Être enfant de Dieu, c'est pas rien. Ça te confère un statut, une identité. Tu n'es pas n'importe qui. De par ton appartenance filiale, tu es investi d'une identité que même l'adversaire va respecter et va reconnaître. Jadis, il n'en était pas ainsi, mais un jour, je suis devenu l'élu du Seigneur, l'enfant du Père Céleste. Et ça, ça me donne une identité. Et de rappeler cela à ton cœur va encourager ta foi et t'aider à gérer tes combats et tes luttes. Tu es le Fils du Père Céleste. D'ailleurs, quand Jésus nous a enseigné la prière, il nous a dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Il est notre Père. Mais à partir de ce moment-là, moi, je n'ai plus rien à craindre. Il est mon Père qui ne laissera aucun détail de ma vie au hasard. Il gère, gouverne parfaitement tous les aspects qui me concerne. On va prier le Seigneur, terminer ce moment en invoquant son nom. Et j'encourage quelqu'un ce matin à prendre conscience de la position privilégiée qui est